Bonjour et bienvenue à Espérance aujourd'hui. Je m'appelle Ian.
Et je m'appelle Hélène. Nous sommes heureux de vous retrouver.
Espérance aujourd'hui est une émission de réflexion biblique.
Aujourd'hui, et durant un certain nombre d'émissions, nous allons réfléchir sur la question « Comment reconnaître un bon dirigeant ?»
Tout au long de cette série, notre invité Robert nous conduira dans nos réflexions. Bonjour Robert. Nous sommes contents de vous accueillir sur le plateau d'Espérance aujourd'hui.
Bonjour Yann et bonjour à tous.
Robert, nous venons d'annoncer notre sujet « Comment reconnaître un bon dirigeant ?» Il serait bon de commencer en expliquant la raison pour laquelle il est pertinent d'en parler lors d'une émission telle qu'Espérance aujourd'hui.
Voici une première raison. La plupart de nos auditeurs, me semble-t-il, habitent dans un pays démocratique. Cela signifie que de temps à autre, ils sont appelés à participer à des élections, que ce soit sur le plan national, municipal ou encore local. Mais avant d'exprimer leur choix dans les urnes, ils doivent réfléchir à la question. Quelles qualités caractérisent un bon dirigeant ? La Bible a des choses à dire à ce sujet. Elle peut ainsi aiguiller notre choix. Mais voilà une deuxième raison pour laquelle il est pertinent d'en parler. Certains de nos auditeurs peuvent occuper des positions de responsabilité. D'autres aspirent à devenir des leaders ou des dirigeants, que ce soit sur le plan national en travaillant pour le gouvernement, par exemple, ou que ce soit sur le plan local en devenant chef d'entreprise ou président d'une association. La Bible considère aussi l'homme comme chef de famille. Vous comprenez alors que beaucoup parmi nous se trouvent dans des positions d'autorité ou de responsabilité. Et nous avons besoin de savoir comment diriger, comment exercer notre autorité. La Bible a des choses à nous enseigner là-dessus.
Ce sujet semble vaste. Comment allez-vous procéder ?
Il est possible d'écrire des livres entiers sur ce thème. Quant à nous, notre tour de la question sera relativement bref. Mais j'espère souligner quelques leçons essentielles. Dans un premier temps, nous allons écouter la lecture d'un psaume. À partir de ce psaume, nous comprendrons quelles qualités devaient caractériser les rois qui régnaient sur Israël. Le roi idéal nous est ainsi dépeint et nous pouvons beaucoup apprendre de sa description.
Écoutons alors ce psaume. Duquel s'agit-il ?
Il s'agit du psaume 72 qui, dans ma Bible, porte le titre « De prière pour un roi ». Il fut écrit par le roi Salomon et en voici quelques extraits.
Ô Dieu, accorde au roi de juger comme toi, et donne au fils du roi ton esprit de justice, qu'il rende la justice à l'égard de ton peuple, selon ce qui est juste, à l'égard de tes pauvres, selon ce qui est droit. Que la paix descende des montagnes et la justice des collines pour tout le peuple, qu'il fasse droit aux opprimés et aux malheureux de son peuple, qu'il sauve les enfants des pauvres et qu'il écrase l'oppresseur. Alors ils te vénéreront tant que durera le soleil, tant que la lune apparaîtra à travers tous les âges. Le roi sera comme une pluie qui descend sur un pré fauché et comme des ondées désaltérant la terre. Que tous les justes soient prospères tant que son règne durera, que ce soit la prospérité tant que la lune brillera. Il délivrera le pauvre qui implorera son secours et l'affligé qui n'a point d'aide. Il aura compassion des faibles et des pauvres, il sauvera la vie des pauvres. Il les arrachera à la violence, à l'oppression, ils seront précieux à ses yeux.
Vous avez parlé de souligner quelques leçons essentielles. Qu'apprenons-nous alors de ce psaume ?
Ce psaume met l'accent sur deux tâches importantes qu'un dirigeant doit pouvoir assumer. Tout d'abord, celui qui gouverne doit exercer la justice envers tous de façon équitable. Ensuite, celui qui gouverne doit également favoriser la prospérité de tous. Tout à l'heure, nous avons posé la question « Quelles qualités doivent caractériser un bon dirigeant ?» En voici donc deux. D'abord, un bon dirigeant doit être juste. Ensuite, un bon dirigeant doit s'occuper des intérêts du bien-être des personnes sous sa charge.
Donc, selon la Bible, un dirigeant doit être au service de son peuple. Mais malheureusement, beaucoup de responsables abusent de leur position dans le but d'obtenir des avantages personnels. Certains, au lieu de servir les autres, se servent de ces derniers à des fins égoïstes.
Ceci est vrai. Et il faut reconnaître que les prophètes de l'Ancien Testament ont dû intervenir à maintes occasions pour dénoncer les abus des dirigeants, qui, entre autres, privaient les pauvres de leurs droits et de la justice, afin d'accumuler à leur détriment terres et biens. La Bible est claire. Leur mauvais exemple est à condamner. Dieu, d'ailleurs, les jugera, et il sera impitoyable envers tout dirigeant qui aura délibérément abusé de sa position. Il est important d'être conscient du fait que l'Éternel nous voit. Aucun de nos agissements ne lui est caché. Et le jour viendra où nous devrons répondre de nos actes devant lui. Souvenez-vous également des paroles de Jésus. Vous savez ce qui se passe dans les nations, ceux que l'on considère comme les chefs politiques dominent sur leur peuple et les grands personnages font peser leur autorité sur eux. Jésus a donc mis l'accent sur un problème important. Et il ajouta aussitôt, « Il ne doit pas en être ainsi parmi vous. Au contraire, si quelqu'un veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Il ne doit pas en être ainsi parmi vous. » En considérant ces paroles de Jésus, nous apprendrons lors des émissions à venir la manière dont un bon dirigeant doit devenir un serviteur. Comment être un chef, considérant d'abord et surtout les intérêts des autres, avant de s'arrêter sur les siens.
Merci Robert. Nous allons donc la prochaine fois revenir sur le psaume 72 et nous reparlerons alors de la justice et nous réfléchirons sur les traits de caractère que tout dirigeant devrait montrer dans ses affaires et ses décisions à prendre.
Durant la deuxième partie de cette émission, nous allons réfléchir sur le sens d'une illustration biblique, celle du trésor. Dans un premier temps, Hélène lira quelques versets du livre biblique des Proverbes. Ensuite, Cédric nous guidera vers une meilleure compréhension de ces versets.
Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse. Heureux celui qui est devenu raisonnable. Acquérir la sagesse vaut mieux que gagner beaucoup d'argent. Les avantages qu'elle donne sont plus précieux que l'or le plus fin. Elle a plus de prix que les perles. Et aucun trésor que tu pourrais désirer n'égale sa valeur. Si tu prêtes une oreille attentive à la sagesse, oui, si tu la recherches comme de l'argent, si tu creuses pour la trouver comme pour découvrir des trésors, alors tu comprendras ce qu'est révérer l'Éternel et tu apprendras à connaître Dieu.
Bonjour Cédric et bienvenue sur le plateau d'Espérance aujourd'hui.
Merci Yann et bonjour à tous. Alors, qui n'a jamais rêvé de découvrir un trésor caché? Je pense que nous sommes tous fascinés à l'idée de trouver un jour par hasard un trésor qui bouleversera notre vie. Et c'est sans doute ce désir de devenir tout à coup immensément riche qui pousse certains, à tort, à participer à des jeux de loterie ou des jeux engageant des paris. Lorsque nous avons du mal à payer nos factures, à assurer l'éducation de nos enfants, ou même à les nourrir, nous pouvons alors être prêts à saisir l'espoir, aussi fou soit-il, qui nous fait croire en une vie aisée ou qui nous fait miroiter des rêves merveilleux. Si donc la Bible se sert de l'image du trésor, c'est parce que Dieu sait qu'elle va capter notre imagination.
Parlez-nous donc du sens de cette illustration.
Tout le monde sait qu'un trésor, constitué d'or et de diamants, possède une valeur inestimable. Cependant, la Bible désire porter nos regards, nos pensées sur quelque chose ayant un prix encore plus inestimable et qui nous procurera le plus grand bien. Il ne s'agit pas d'un trésor matériel, mais d'un trésor spirituel.
Quel est donc ce trésor? Parlez-nous des proverbes qui ont été lus tout à l'heure.
Le trésor dont parlent ces proverbes est la sagesse.
Et comment définiriez-vous la sagesse?
La sagesse, c'est tout ce qu'il nous faut connaître pour bien mener notre vie. C'est ce qu'il nous faut posséder pour réussir. Mais pas forcément sur le plan matériel, mais sur les plans moral et relationnel, et surtout sur le plan spirituel. La véritable sagesse, ou la meilleure des sagesses, est celle que l'Éternel a révélée aux hommes. Elle est d'origine divine et se trouve dans la Bible.
Selon les proverbes bibliques, cette sagesse est plus utile et plus précieuse que tout trésor trouvé dans un champ.
Oui, et le meilleur que cette sagesse puisse nous offrir, se trouve révélé dans le dernier verset lu. Je vais le lire à nouveau. « Tu comprendras ce qu'est révérer l'Éternel, et tu apprendras à connaître Dieu. » Non, vraiment, il ne peut rien exister de plus merveilleux.
Selon la Bible, en effet, il est impossible d'aspirer à plus beau encore. Personnellement, j'ajouterai que je n'échangerai pas ma connaissance de l'Éternel contre un trésor matériel quelconque.
Lorsque nous considérons la grandeur de l'Éternel, nous ne pouvons que nous en émerveiller. Il est le Dieu souverain, celui qui crée toutes choses. De plus, il se dévoile à nous, il nous permet de le connaître. Il veut que nous marchions avec lui, que nous jouissions de sa bienveillance, de sa grâce, de sa faveur. Et lorsque nous accordons à l'Éternel la première place dans nos vies, lorsque nous nous appuyons sur sa sagesse, il nous donne son discernement afin que nous menions au mieux nos relations personnelles et que nous assumions les diverses situations auxquelles nous sommes confrontés avec son aide. Vivre une amitié avec le Dieu parfaitement sage nous permettra de réussir au mieux notre vie.
J'ai noté que selon les proverbes, cette sagesse n'est pas acquise sans effort. Non, il faut la rechercher, comme si on creusait un trou pour découvrir un trésor enseveli.
En effet, et il s'agit là d'une deuxième leçon que nous pouvons apprendre sur l'illustration du trésor. L'imagination des enfants est souvent captivée par des histoires de pirates ayant caché un trésor et l'existence de cartes indiquant la façon de le trouver. S'il nous venait à trouver une carte révélant l'existence d'un trésor, il faudrait d'abord nous appliquer à la déchiffrer afin de comprendre par où commencer nos recherches. Ensuite, nous aurions à monter toute une expédition, entreprendre un voyage, à surmonter de nombreux obstacles et éventuellement à devancer les concurrents qui tenteraient eux aussi de s'approprier ce trésor. Cependant, tout cet effort en vaudrait la peine.
C'est une belle illustration, mais que devons-nous retenir sur le plan spirituel?
Eh bien, la Bible est un peu comme cette carte au trésor. Une certaine discipline s'impose si nous voulons la lire régulièrement. Un effort est nécessaire si nous voulons bien la comprendre. Et pourtant, cela en vaut la peine. Ainsi, la Bible est comme cette carte au trésor qui nous conduira vers la vraie sagesse. Et mieux encore, elle nous conduira à la connaissance du bien le plus précieux que nous puissions jamais posséder, l'Éternel, notre trésor inestimable. Alors que nous lisons la Bible et écoutons ce qu'il enseigne fidèlement, l'Éternel se laisse découvrir. Il se donne à nous et nous profitons de sa sagesse divine et de cette relation privilégiée avec le Tout-Puissant, avec celui qui est compatissant et miséricordieux.
Merci Cédric pour ces pensées précieuses qui dirigent nos regards vers celui qui vaut infiniment plus que toutes les richesses que nous puissions jamais posséder.
C'est sur cette note encourageante que nous devons terminer notre émission. Nous vous remercions pour votre écoute et vous disons au revoir et à la prochaine.
Au revoir et que Dieu vous bénisse.